Décodez-nous votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonsoir et bienvenue pour le 240e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Alors ce soir c'est un petit peu spécial puisque Alexandre est encore en vacances pour changer. Donc du coup je fais l'émission un petit peu tout seul. Donc au programme, comme d'habitude, on va faire les deux semaines les actualités des deux semaines écoulées. Donc Alexandre a fait enregistrer deux actualités donc, que je passerai ultérieurement dans l'émission. Et on va tout de suite commencer par la partie Internet et vie privée. On va commencer par le running gag, alors qui a commencé l'année dernière, hein, mais ça continue et c'est pas prêt de s'arrêter. Hein. C'est le blocage des sites pornographiques qui a été inscrit dans la loi, mais sans dire comment qu'on fait. Et donc, c'est devant la justice pour dire il y a des associations qui disent oui, c'est toujours pas bloqué, alors qu'on a dit il faut que ça soit bloqué. Donc on en avait parlé il y a deux semaines, il y avait la nomination d'un médiateur qui avait été annoncée. Alors je ne sais plus si c'était passé il y a deux semaines, en fait ça a été annoncé juste au moment où on préparait l'émission, donc je ne sais plus si c'était passé il y a deux semaines, si on en avait parlé longuement. Donc il y a un médiateur qui a été nommé pour dire bon, allez, comment qu'on fait pour réconcilier les gens, puisqu'on a d'un côté les sites pornographiques qui disent on nous impose de mettre en place un contrôle d'âge. On ne nous dit pas comment faire, on ne nous dit pas quels sont les critères pour que notre contrôle soit efficace. Aujourd'hui, il est évident que la bannière « oui, je certifie avoir plus de 18 ans », ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, avec les règlements de protection des données et de la vie privée, ben, il n'y a pas de solution qui marche. On ne va pas demander aux gens de mettre un numéro de sécurité sociale, ça serait une identification immédiate. On ne peut pas demander, même demander un paiement par carte bancaire, même de 1 centime, ça ne marche pas parce que bah, des mineurs peuvent avoir une carte bancaire. Demander une copie de carte d'identité, c'est impossible aussi techniquement. Donc les sites ont dit comment qu'on fait. Et donc le tribunal judiciaire a demandé à mettre en place, donc dans le cadre de la procédure initiée par l'ARCOM, ils ont demandé à ce qu'il y ait un médiateur qui soit mis en place parce que s'il n'y a pas de médiation, il faut trancher au bout d'un moment. Et donc, le président de l'ARCOM, donc, c'est passé cette semaine, il est revenu sur la question de la régulation et sur justement le problème de l'accessibilité des sites. Et donc, je vais citer le monsieur, hein, donc Roch Olivier Mestre, donc dans son rapport annuel devant la commission des affaires culturelles. Nous avons mis en demeure, Nous avons mis en demeure 7 sites contrevenants. Pour les 5 premiers, le président du tribunal judiciaire a enjoint aux parties, le 8 septembre, de recourir à une médiation. La balle est désormais dans le camp des sites, dont j'espère qu'ils proposeront dans ce cadre des solutions concrètes respectant les termes de la loi. Donc là, le président de l'ARCOM fait un discours, on va dire, qui est assez amusant, puisqu'il dit « Le tribunal, ils ont nommé un médiateur, maintenant c'est au site de proposer des solutions. » Or, la médiation, il me semble qu'en général, c'est entre deux parties, et il faut que les deux parties discutent. Toutes les initiatives ne doivent pas venir que d'une seule partie. Donc déjà, il y a un problème, je crois que le monsieur n'a pas compris la définition de médiation. Et il y a un autre souci, c'est que les sites en question ont tous déjà contacté l'ARCOM, contacté la CNIL pour dire comment faire. On veut bien respecter la loi, mais dites-nous comment faire. Et la CNIL a fait une très longue explication pour dire on a regardé, il n'y a pas de solution de contrôle d'âge efficace. Donc le dossier a été publié courant juillet. Ils ont dit il n'y a pas de solution. Sur le marché, il n'existe pas de solution. Les éditeurs de sites n'ont pas de solution qu'ils puissent développer et créer eux-mêmes. Donc, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens pour mettre ça en place. Il y a un trou technique. Il n'y a pas de solution qui puisse être mise en place. Mais voilà, pour l'ARCOM, c'est au site pornographique de trouver une solution. Ça va être assez intéressant, puisqu'au final, on est sur un truc qui est complètement à l'encontre du fonctionnement d'Internet, à l'encontre du respect de la vie privée. Donc ça va être assez intéressant à voir. Donc on a maintenant, je vous passe donc une première actualité donc, qui avait été enregistrée par Alexandre. Alexandre va nous parler un petit peu d'Amazon et d'Alexa. Alexandre.
Bonjour à tous. Bonjour Pierre. Mes vacances ne sont pas encore terminées, mais je tenais tout de même à prendre un peu de temps pour être présent avec vous. Ce soir, je vais évoquer deux sujets concernant la vie privée et je vais commencer le premier avec Amazon et son enceinte connectée Alexa. Pierre me dira sûrement que le principe d'enceinte connectée est en lui-même un problème pour la vie privée. Et avec raison, acheter un appareil dont une des principales fonctionnalités est d'écouter ce qui se passe chez vous, c'est un peu Big Brother qu'on va acheter au supermarché. Et pourquoi les géants du web aspirent-ils le maximum de données personnelles sur vous ? Pour vendre de la publicité, bien sûr, comme sur le web. Puisque ce genre d'équipement est très utilisé pour poser des questions, quel temps va-t-il faire, ou comment puis-je faire disparaître cette tache de café que j'ai fait sur mon pull, eh bien on s'en sert comme un moteur de recherche vocale, plutôt comme un appareil qui va traiter les résultats d'un moteur de recherche. Et donc pourquoi ne pas demander aux entreprises de répondre directement ? Eh bien c'est ce que va faire Amazon en proposant sur invitation à certaines entreprises de fournir directement les réponses. Les réponses dont on peut se poser quelques questions concernant leur objectivité. Amazon a tenu à préciser que les entreprises proposant des réponses ne paieront pas pour cela actuellement. Alors je ne veux pas faire un procès d'intention, mais cela ressemble plutôt à un ballon d'essai qui peut être monétisé s'il est concluant. D'autant plus que, non content de suggérer une réponse, les entreprises pourront également envoyer directement un mail publicitaire aux personnes ayant posé une question qui les concerne.
Pour revenir sur le sujet de l'enceinte connectée, donc, ce qui est encore plus aberrant, je trouve, sur le fait d'avoir une enceinte connectée chez soi, c'est pas seulement d'avoir quelque chose qui nous écoute en permanence, c'est que l'enceinte connectée n'a pas l'intelligence requise pour comprendre tout ce qu'on va dire et tout analyser. Donc tout ce que l'enceinte va capter, elle va l'envoyer surtout au serveur d'Amazon ou de Google ou Apple. C'est, attention, hein, ces systèmes-là, j'ai rien contre un fabricant en particulier, j'ai contre tous les fabricants en particulier. Et donc il n'y a pas de solution technique sur le marché qui soit vraiment indépendante du monde extérieur, indépendante du fabricant. Donc là-dessus, niveau sécurité, c'est une catastrophe, et niveau respect de la vie privée, du coup. Et juste pour rebondir sur les publicités, il y a une expérience qui a été menée par YouTube récemment. Donc, je sais pas si vous avez déjà remarqué, c'est assez dur à voir, c'est bien fait les expériences. On appelle ça le A/B testing. C'est aléatoirement, on propose telle ou telle version aux visiteurs. Et du coup, certains visiteurs sur YouTube, alors a priori, surtout aux États-Unis, se sont vus proposer au début des vidéos, non pas deux, non pas trois, mais 10 publicités consécutives qu'on ne pouvait pas passer. Et a priori, c'est pas une erreur de la part de YouTube, c'est un test qu'ils font pour voir à quel point les gens résistent aux publicités, ils sont réfractaires, ou à quel point les gens peuvent les accepter pour tout simplement améliorer la monétisation de YouTube. Donc la publicité, oui, c'est le nerf du web, hélas, puisque ben, y a pas de modèle qui a été mis en place autre que la publicité. En tout cas, il n'y a pas de modèle qui marche autre que la publicité. Donc c'est assez inquiétant. Et du coup, autre actualité, puisqu'on parle un peu d'Internet, c'est de surveillance. Là, parlons un peu de surveillance plus généralisée, plutôt par des États, pour le coup. Donc, un site américain d'enquête et d'investigation a révélé que le renseignement militaire américain a acheté l'accès à un puissant outil de surveillance qui prétend couvrir plus de 90% du trafic internet mondial et qui, même dans certains cas, donnerait accès aux données de messagerie électronique, à l'historique de navigation et à d'autres informations sensibles comme les cookies. Et donc, il y aurait des pétaoctets de données actuelles historiques avec 550 points de collecte dans le monde, y compris en Europe, au Moyen-Orient, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique et Asie. Donc, tous les continents, à peu près, hein. Et avec 100 milliards de nouveaux enregistrements chaque jour. Donc c'est un outil qui est développé, vraiment, c'est effectivement. C'est une solution d'espionnage mondial. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, l'accès me semble extrêmement peu cher, puisque la marine américaine, le Cyber Command et la Defense Counterintelligence and Security Agency auraient payé au total au moins 3,5 millions de dollars pour y accéder. 3,5 millions de dollars, c'est très peu. Donc, j'avoue, ça me surprend un petit peu. Et autre polémique qui, pour le coup, moi, me choque un peu, c'est que donc ce produit est développé par une entreprise qui s'appelle Simru, comment ça se prononce, et le PDG, donc le CEO de cette entreprise, s'appelle Rabbi Rob Thomas, et il figure au conseil d'administration du projet Thor. J'avoue que la double casquette m'emmerde beaucoup là, pour le coup. Donc le projet Thor explique que les conflits d'intérêts potentiels ont été examinés et il n'y a pas de problème majeur qui était identifié. Je sais pas ce que ça vaut, hein, une telle explication, mais j'avoue que ça me perturbe beaucoup de voir ça. Donc à suivre, on verra s'il y a d'autres retombées sur ce sujet d'ici là. On va revenir un petit peu plus en Europe. Donc en Europe, l'amende de 4,125 milliards d'euros contre Google a été enfin confirmée. Donc, j'espère que le virement arrivera vite. Et donc, l'amende contre Google est liée à l'inclusion de Google Search et de Chrome dans Android. Et au fait qu'on ne peut pas les remplacer réellement. C'est imposé aux utilisateurs. D'ailleurs, ça marche, ça s'applique aussi au Play Store et au Google Play Service qui sont imposés par Google. Puisque, en fait, imposés par Google. Ils sont nécessaires pour vendre un téléphone Android et il n'y a pas d'alternative possible aujourd'hui. Et Google impose un certain nombre de contrats anti-compétitifs pour accéder à ces services. Donc, c'est une bonne petite nouvelle. Ça fait toujours plaisir, hein, de les voir payer. Maintenant, on verra s'il y a une réponse, on va dire, de la part des États-Unis là-dessus, puisque des fois, ils s'amusent aussi à sanctionner les entreprises européennes. Des fois à raison, des fois à tort, uniquement pour une forme de vengeance, on va dire. Mais on verra ce que ça va changer. Est-ce que Google va rentrer dans le rang? Est-ce que Google va se mettre enfin à laisser la concurrence? Est-ce qu'il sera autorisé, par exemple, demain d'avoir des téléphones Android préinstallés avec Firefox au lieu de Chrome? Ou avec un moteur de recherche DuckDuckGo ou Quant au lieu de Google? On verra. Pour l'instant, ce n'est toujours pas le cas, du coup. Enfin, puisqu'on est revenu en Europe, on va revenir sur la France pour une dernière actualité de vie privée. On va parler de Bercy et je laisse la place à Alexandre.
Après Amazon, revenons en France et avec son administration. Notre administration aime les fichiers sur ses chers administrés. Parfois légitimes, mais qui peuvent aussi, pour certains, constituer des atteintes pas toujours justifiables sur la vie privée. Pour une fois, ce n'est pas d'un fichier de police dont nous allons vous parler, mais d'un fichier tenu par le ministère de l'économie et des finances, le FICOBA. FICOBA pour fichier des comptes bancaires et assimilés, qui contient, comme son nom l'indique, l'ensemble des comptes bancaires ouverts en France, aussi bien pour les comptes courants que les livrets d'épargne. FICOBA est utilisé notamment par la Sécu, les huissiers, les banques ou encore l'administration fiscale. Actuellement, et c'est important de le noter pour la suite. Ce fichier permet uniquement de savoir qui détient un compte, sans pouvoir savoir comment il est utilisé. Et c'est ce que voulait remettre en cause le ministère de l'économie et des finances. C'est un courrier adressé par le ministère de l'économie au directeur interministériel du numérique qui nous l'apprend. Merci, vous voulez intégrer dans Ficoba les opérations sur les comptes courants. En fait, pouvoir savoir en temps réel ce que vous faites de votre argent, qui vous donne de l'argent et surtout comment vous le dépensez. Ce dernier point a fait tiquer la direction interministérielle du numérique, qui a noté qu'aucun texte n'autorisait cela, et enjoignait le ministère de l'économie et des finances à consulter la CNIL. Pour le moment, la dernière version proposée par Bercy ne fait plus mention du suivi en temps réel des opérations bancaires. Mais on sait désormais que la velléité de les surveiller existe à Bercy. Mais cela permettrait également de les mettre à disposition de différents acteurs avec tous les risques de fuite imaginables.
Donc le petit point aussi, techniquement, juste moi ça m'a fait beaucoup rire de voir cette actualité. Alors certes, une transaction bancaire, c'est pas beaucoup en termes de données, en termes de volume. Finalement, c'est une date, un montant, une source, une destination, éventuellement un libellé ou deux à côté, ça tient dans 200 octets, même pas, même moins. Sauf que avoir en temps réel tous les mouvements de tous les comptes bancaires en France, le volume de données est considérable, et en fait, je ne sais pas s'ils se rendent compte, parce que leur fichier actuel, que ce soit le Ficoba ou les autres fichiers type empreinte génétique ou que sais-je, c'est des fichiers assez statiques, c'est pas quelque chose qui va bouger tout le temps. Alors que là, du coup, le Ficoba, ça deviendrait une base de données monstrueuse, en volume, déjà, parce que quelques octets par opération, fois plusieurs millions d'opérations par jour, c'est colossal, puisque chaque paiement par carte bancaire, par exemple, aujourd'hui, quasiment pour tout le monde, chaque paiement, c'est déjà au moins une ligne sur un compte. C'est énorme. Le fichier serait inutilisable tellement il bougerait en permanence, le niveau d'écriture serait colossal. Alors je suis sûr qu'en payant suffisamment cher c'est faisable techniquement, mais c'est vraiment assez délirant, ne serait-ce que techniquement, vouloir faire ça, et sans parler du coup effectivement de l'impact sur la vie privée qui serait dramatique. Donc heureusement ça a été retoqué, mais faudra faire attention à ce que ça ne soit pas introduit dans la loi. On va écouter un premier morceau de musique et je vais en profiter pour aller boire un verre d'eau. On va écouter Square One de Michael Ellis, toujours sur Radio Campus 106,6. Le mât a été réparé. La radio numérique terrestre et campuslille.com. C'est Décodez-nous et on se retrouve dans quelques instants.
Chanting and I'm ranting to distract myself from what was never good. I'm ranting, indifferent something else when you got less than 30 years under the hood. When did it all turn bad? When did we become old? When did we measure our awkwardness and why? I solemnly swear to get out of here I'm good to pay the bill. Cause all I hear is noise, noise, noise. Boys, boys, boys. I can't admit the allegations. And all I hear is noise, noise, noise. Boys, boys, boys. So let's go. I'm prudent. So prudent, you find my arrogance speaking from every other song. Diluted, for years we failed. failed to see we're locked and loaded pretty much all along. When did it all turn bad? When did we become old? When did we measure entertainment and why? A diamond in the sand, barely 2 feet from your hand, but you take it just for glass and sunshine. 'Cause all you hear is noise, noise, noise. Boys, 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 you can't admit the allegations. And all you hear is noise, noise, noise. Boys, 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 so let's go. Entertainment and wine. A diamond in the sand, barely 2 feet from your hand, but you take it just for glass in the sunshine.
In the sunshine.
'Cause all we hear is noise, noise, noise. Boys, 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 we can't admit the allegations. And all we hear is noise, noise, noise. Boys, 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 let's not admit the allegations. 'Cause all we hear is noise, noise, noise. Boys, 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 all we hear is noise, noise, noise. And all we hear is noise, noise, noise. Boys, 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 boys. So let's go.
C'était Square One de Michael Ellis, toujours sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campusil.com. Vous écoutez les codes avec nous. Et c'est la deuxième partie des actualités. On va parler un petit peu, émission de logiciel libre oblige, hein, nous allons parler un petit peu de sortie et d'évolution logicielle. Alors tout d'abord, c'est une actualité dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, qui a surtout de l'importance purement techniquement, mais j'en parle parce que c'est quand même un changement assez majeur qui va avoir lieu. Linus Torvalds, donc le fondateur, le mainteneur principal du noyau Linux, a annoncé que, a priori, dans la version 6.1 qui est prévue pour sortir d'ici la fin de l'année, le langage de programmation utilisé pour écrire le noyau ne sera plus seulement le C, mais le langage Rust sera aussi autorisé pour les pilotes. C'est un changement. Ceci est une révolution, pour parodier un certain Steve Travail. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette annonce? Oui, on va pouvoir utiliser un autre langage de programmation. Ouais, super, ça change quoi? Concrètement, ce que ça va changer, c'est que demain, les pilotes en question seront, a priori, si c'est bien le langage Rust, s'il est bien utilisé, et c'est beaucoup plus facile de bien l'utiliser que le langage C, qui en fait n'a aucune barrière de sécurité et a beaucoup de pièges pour introduire des failles de sécurité, des bugs, des crashs, les pilotes en question seront du coup plus fiables, plus stables. Alors on parle pas de réécriture de tous les pilotes actuels, mais de pouvoir écrire au moins des nouveaux pilotes avec ça. Et certaines personnes ont des idées pour réécrire des pilotes ou des parties au fur et à mesure dans le noyau, parce que le noyau Linux c'est un projet tellement monstrueux que ça sera jamais réécrit entièrement, ça c'est pas possible. Mais là on va voir du coup le noyau Linux, dans quelle direction ça va. Mais là où c'est une révolution, c'est que c'est la première fois qu'on a un effort à ce niveau-là, c'est-à-dire un effort non pas sur les méthodes de développement, mais vraiment sur fondamentalement sur le langage de programmation pour dire ok, il y a des failles de sécurité, il y a des bugs, il y a des crashs qui sont introduits. On va lutter contre ça, on va revoir les choses en question, on va revoir fondamentalement pour essayer que ça ne soit plus introduit plutôt que de corriger a posteriori les bugs qui ont été introduits. Donc c'est une excellente nouvelle à suivre du coup pour l'impact que ça aura. Il y a déjà quelques personnes qui ont annoncé des pilotes en cours de développement qui seront réalisés avec ce langage de programmation. Autre nouvelle donc qui est passée, ça date de cette semaine, je ne sais plus, je crois que c'est avant-hier, quelque chose comme ça. C'était l'anniversaire avant-hier, voilà, les 20 ans de la version 0.1, la première version publique de Phoenix. Alors, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui se souvient de ça. Il n'y a pas grand monde non plus, je pense, encore sur, parmi nos auditeurs, qui a utilisé Phoenix. Phoenix, c'était la première version, c'était le premier nom, en fait, de Firefox. Et donc, l'histoire de Phoenix, c'est des développeurs au sein de chez Netscape qui trouvaient que la direction prise par le projet Mozilla avec la suite Mozilla, donc inspirée de Netscape, enfin, dont Netscape dérive, la suite était trop encombrée. Parce que Netscape, Mozilla, c'était quand même navigateur web, éditeur de pages web, lecteur de mail, lecteur de news, et je crois que j'en oubliais encore. Donc c'était beaucoup trop gros, ils préféraient uniquement un navigateur web. Ils trouvaient qu'il manquait trop d'éléments pour que le navigateur soit complet, et qu'il y avait trop de trucs à côté qui encombraient. Donc ils ont décidé de faire Firefox, qui ne soit qu'un navigateur web, et avec un certain succès, puisque Firefox, on en parle toujours aujourd'hui. Donc, bon anniversaire Firefox, tout simplement. C'est les 20 ans de la sortie de la première version de Firefox, enfin de Phoenix, du coup, qui est devenue Firefox quelques années après, au fur et à mesure de ces des nouvelles versions. Sinon, dans les autres actualités logicielles de ces dernières semaines, donc il y a la sortie de GNOME 43, donc GNOME, l'une des interfaces majeures de Linux. Alors, par contre, je ne vais pas trop pouvoir dire ce qu'il y a vraiment d'intéressant dedans, parce que je ne connais pas du tout GNOME, parce que j'aime pas. Voilà, j'aime pas sa gueule. Pardon, c'est facile, j'ai plus Alexandre pour me modérer. Donc, il y a surtout des ports sur de logiciels pour utiliser les nouvelles versions de GTK. Il y a des améliorations, ils disent des améliorations un peu partout. Donc je ne sais pas ce à quoi ça correspond, ça ne me parlera pas, mais j'aurai beaucoup de mal à en parler. Peut-être qu'Alexandre pourra plus en parler dans 2 semaines. Autre nouvelle logicielle, pour le coup, je vais faire une petite exception, j'ai parlé d'une nouvelle logicielle, mais côté logiciel privateur, avec Electronic Arts, qui a fait une annonce qui m'inquiète quelque peu. Enfin, m'inquiète quelque peu, moi ça ne me concerne pas du tout, mais ça m'inquiète un petit peu pour nous défendre. Le logiciel libre, enfin des systèmes Linux, malgré le fait que vous vouliez utiliser des jeux privateurs dessus. Electronic Arts a annoncé un nouveau système anti-triche sous la forme d'un pilote noyau, donc pour Windows uniquement. Ils n'ont pas l'intention de faire ça pour Linux. Et le problème, c'est que ce niveau-là, c'est très 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 difficile à atteindre pour un émulateur comme Wine, qui ne fait pas tourner le noyau Windows du tout. Donc, ils ont l'intention de faire ça parce que les systèmes de triche ont trop évolué. Et maintenant, il n'y a pas le choix. Si on veut aller plus loin, il faut nous aussi aller au même niveau que les logiciels de triche. Les logiciels de triche sont développés avec des pilotes noyaux Windows. On va faire pareil. Je comprends le raisonnement, mais malheureusement, voilà, les conséquences pour le monde Linux risquent d'être assez sévères pour faire tourner les jeux de cet éditeur, en tout cas. Donc à suivre. Après, pour ma part, je suggère de fuir ce genre de solution, parce que faire tourner ce genre de pilote sur votre ordinateur, ça veut dire en quelque sorte que vous perdez une partie de la maîtrise de votre ordinateur, et que c'est Electronic Arts qui considère que ils ont le droit de vie et de mort sur ce que vous avez le droit de faire tourner sur votre machine. Puisque vous voulez tricher, oui, mais nous, on veut vraiment pas que vous trichiez, donc on va mettre un truc de blocage là-dessus. En quelque sorte, c'est un jeu de chat et souris, sauf que, au lieu de considérer que c'est les joueurs qui sont responsables de ce qu'ils font tourner, j'ai du mal à comprendre quel est le mal à tricher, à part pour s'il y a vraiment de la compétition, mais dans ce cas de la compétition, des vrais événements de compétition, c'est simple, les machines, c'est pas les machines des joueurs, c'est des machines qui leur sont fournies, eux ils ramènent clavier souris et c'est marre. Comme ça, au moins, on est sûr que tout le monde a la même chose. Mais donc là, j'avoue, j'ai un peu du mal à comprendre le principe d'un système anti-triche comme ça. Enfin, l'intérêt d'aller aussi loin dans le blocage de la triche. Sinon, toujours sur les jeux vidéo, pour parler un peu plus de moteurs de jeux vidéo libres, donc Godot, donc, qui est un moteur pour créer des jeux vidéo, hein, c'était pas un jeu vidéo. Donc la version 4 est en cours de développement, il y a une nouvelle version alpha qui est sortie, et surtout il y a une annonce il y a quelques jours. Les développeurs du moteur ont créé une start-up qui s'appelle W4 Games, W4 Games, et ils ont réussi à lever 8,5 millions de dollars pour sponsoriser le développement de Godot. Donc c'est une excellente nouvelle, ça montre qu'il y a des logiciels libres qui arrivent vraiment à avancer et à se financer assez bien, c'est une bonne nouvelle. Et pour finir sur le financement de logiciels libres, dans les logiciels de montage vidéo de sous Linux, il y en a un qui est assez réputé, c'est KDE Live, donc, qui est développé par l'équipe du projet, enfin, qui est développé au sein du projet KDE, mais qui est tout à fait utilisable avec les autres environnements Linux. Et donc, ils ont annoncé une levée de fonds pour KDE Live spécifiquement. Donc, ils espèrent réussir à obtenir 15 000 euros pour contribuer au développement du logiciel. Donc, améliorer, enfin payer juste du temps de développement dessus pour améliorer les performances ou que sais-je. Donc c'est toujours une bonne chose d'avoir ce genre de financement pour un projet, ça peut vraiment les aider. Donc si vous avez les moyens, si vous aimez KDN Live, n'hésitez pas. Donc c'est sur le site kdnlive.org, c'est en anglais, mais je crois qu'il y a un lien, il y a une traduction en français, il me semble, de la page, et on peut directement aller faire des dons. Et donc là, actuellement, ils ont déjà collecté tout de même 8 800 euros sur les 15 000 voulus. Donc c'est plutôt une bonne chose. On va se faire un deuxième morceau de musique, et comme ça, je vais à nouveau reposer ma voix. On va écouter Marsupial de Lawrence Danova, toujours sur les codes nous, Radio Campus 106.6, la radio numérique terrestre, et campuslille.com.
Sleep within me, maybe baby. Sleep within me. My body like a marsupial's instincts would for it, baby, baby. Out of bed, out of day.
for you. And if it will be the latter, will you also cradle my inside of you, like I once did for you.
C'était Marsupial de Laurence Danova, toujours sur Radio Campus 106.6 à Radio Numérique Terrestre et CampusIL.com. Vous écoutez les codes avec nous. Et c'est la dernière partie des actualités. On va parler un petit peu de sécurité informatique. Alors, avec deux, trois petites actualités assez intéressantes ces dernières semaines. Donc, on a tout d'abord, on en a déjà parlé, là, je vais juste remettre une petite couche dessus. On a VMware qui a fait une analyse des performances de Red Bleed, donc la dernière faille qui a été annoncée concernant les processeurs Intel notamment. Et donc, l'équipe de VMware, donc un éditeur de système de virtualisation qui est très utilisé côté serveur notamment. Ils ont fait des analyses de performance, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des pertes de performance selon le sujet, selon le point étudié, qui allaient de moins 13 à moins 70%. Donc c'est des pertes majeures, c'est la vitesse réseau par exemple est passée de 12 à 8 gigabits par seconde par exemple. C'est une baisse énorme juste pour une correction de cette faille de sécurité. Donc c'était un problème qui était assez connu quand le correctif a été proposé. Il y a une personne qui travaille sur un correctif alternatif qui n'aurait pas le même impact, mais ben c'est du travail qui est en cours, c'est pas terminé. Et donc ça, on en a déjà parlé hein, de l'impact de ça, mais on continue de voir du coup des mesures où le coût apparaît délirant. Moi, pour ma part, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais je commence à désactiver ce genre de correctif juste parce que je ne trouve pas que le coût en vaille la peine. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Autre nouvelle de sécurité. Enfin, je l'ai mis dans sécurité, j'avais pas trop le classé entre sécurité et logiciel, je trouvais ça assez intéressant tout de même. La version 1.0 de Wasm Time est sortie. Alors, qu'est-ce que c'est Wasm Time ? Donc, c'est développé par la Bytecode Alliance, qui a été formée par Intel, Mozilla et Red Hat. Et donc, leur but, c'est de promouvoir donc, le WebAssembly en dehors du navigateur web. Donc, on va remonter encore d'un cran. Qu'est-ce que WebAssembly ? Les navigateurs web, donc, c'est des pages qui sont HTML. Le style est en CSS et la partie dynamique des pages web c'est du JavaScript et il y a différentes raisons pour lesquelles les performances sont pas toujours bonnes et donc il y a WebAssembly qui a été développé pour compenser ça. C'est en fait les développeurs font leur programme dans un langage compilé en WebAssembly et donc ça fait des fichiers exécutables universels, c'est ce qu'on appelle un bytecode. Et donc ils ont annoncé la première version, ça y est, de Wasm Time, qui permet d'exécuter des exécutables WebAssembly en dehors du navigateur web. Et donc, leur but, c'est de dire, voilà, comme ça, on développe dans un seul langage et ça va marcher sur Windows, Linux, macOS, sur téléphone, etc. Alors, le but, c'est malheureusement pas de faire des applications universelles, puisque c'est complètement insuffisant. Peut-être qu'à l'occasion, je ferai une dédicalisation sur ce sujet, pourquoi il n'y a pas vraiment d'application universelle possible. Mais en tout cas, là, moi, ce qui me fait beaucoup, beaucoup rire dans cette actualité, c'est que c'est le retour. Alors, pour les plus techniciens d'entre vous et les plus anciens, ça va peut-être parler, vous parler, c'est le retour du Compile Once Run Anywhere. En fait, c'était le slogan de Java. Et c'est, en fait, ce qui a été annoncé là, je n'arrive pas à trouver la différence entre ça et Java, la plateforme de programmation qui existe depuis les années 90 et qui continue d'être développée, de maintenue et qui fonctionne. Il n'y a pas de différence pour moi entre les deux, à part que ça, voilà, c'est nouveau, c'est bien. J'ai du mal à voir du coup en quoi c'est vraiment mieux. Donc on verra. Peut-être que ça aura un succès fou et que demain on aura des applications universelles qui marcheront sur toutes les plateformes et ce sera génial. Mais à mon avis, on en est assez loin. Je pense vraiment pas que c'est quelque chose qui arrivera sur nos ordinateurs personnels et que ça sera cantonné au monde des serveurs, malheureusement. Et enfin, une dernière actualité. Par rapport à la sécurité, il y a un projet qui a été annoncé. Alors vraiment, c'est l'annonce d'un projet, c'est une première présentation. C'est pas demain que ça arrivera sur les distributions Linux, mais qui vise à ce que les systèmes Linux puissent être plus respectueux du label Secure Boot. Alors Secure Boot, c'est imposé par Microsoft sur les PC maintenant, et ça permet d'avoir un tampon pour que lorsque vous avez débranché votre ordinateur, et il y a un tampon pour dire l'ordinateur lui-même, le BIOS, le gestionnaire de démarrage, votre noyau, votre système d'exploitation, tout est intact, ça n'a pas été modifié. Parce que c'est pour se protéger d'une attaque par quelqu'un qui vient, qui modifie le disque dur pour extraire vos mots de passe quand vous les taperez après ultérieurement. Donc c'est à ça que sert Secure Boot. Donc aujourd'hui, Linux, il y a un problème, c'est que l'un des composants du démarrage qui est dynamique, qui n'est pas créé, qui n'est pas distribué par Debian, Red Hat ou autre, qui est créé localement sur votre machine. Et ça casse complètement le fonctionnement du coup de Secure Boot, ça ne colle pas du tout avec ça. Et il y a un projet qui a été annoncé du coup pour essayer de rattraper, de faire un lien entre les deux qui soit un peu plus correct, d'avoir un système de démarrage qui maintienne le tampon de Secure Boot correctement, donc sans bidouiller. Donc en fait, ça sera un système qui ne sera pas généré sur votre machine, mais qui sera généré vraiment par la distribution, signé, tamponné par la distribution, avec juste sur votre machine, ça prendra les bons morceaux, et ça fera l'assemblage et ça devrait bien rouler. Alors c'est à suivre, hein, puis en plus je vous présente ça de manière assez sommaire pour l'instant. J'attends de voir un petit peu ce que ça donne avant d'en parler plus, et j'attends aussi moi de pouvoir l'essayer pour vraiment pouvoir en parler et mieux comprendre ce que ça fait. Alors, on va refaire une petite coupure parce que juste après la coupure musicale, il y aura une déguicalisation. Sauf que là, ma voix, c'est vraiment difficile. Donc, je devrais tenir, mais je vais juste me faire un dernier morceau de musique. On va écouter Love 15 de Carter Vale, toujours sur Radio Campus 106.6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. On se retrouve dans quelques minutes.
Set me in the corner now and take me colors with it.
C'était Love 15 de Carter Vale, toujours sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. Vous écoutez les collègues nous. Et c'est l'heure de la dégeekalisation. Et aujourd'hui, on va parler sécurité informatique et on va essayer de prendre un petit peu de recul sur ce sujet. Parce que on en parle quand même assez souvent et je trouve que. Il y a un problème de contexte qui est jamais explicité, je trouve, quand on parle de sécurité informatique. À chaque fois, on parle de failles de sécurité. On parle, ben, par exemple, il y a eu les failles de sécurité sur les processeurs, il y a eu les failles de sécurité sur, ben, sur différents. Il y a eu les failles de sécurité de systèmes de chiffrement, ce genre de choses. Il y en a eu plein, des failles de sécurité. Il y en a eu plein, plein, plein. Le truc, c'est que. Ben. En fait, qui ça concerne ? Et là, il y a un vrai souci, je trouve. On n'en parle pas assez. C'est quelle est l'importance réelle de ces failles et quel est le vrai danger, finalement ? Alors, bien entendu, mon but ne va pas être de minimiser, de dire « Oh, c'est pas grave, tout ça, on s'en fout. » Mais je préviens tout de suite. Le but, c'est plutôt de réfléchir à ce qui pose problème aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a certains sujets qui ne sont tout simplement pas abordés. J'ai pas vu d'évolution majeure. Il y a quelques tentatives à droite, à gauche, mais il y a des problèmes majeurs qui ne sont pas traités en termes de sécurité, je trouve. Donc, l'axe majeur, quand on parle de sécurité, vraiment, quand on parle de sécurité, que ce soit informatique ou non informatique, prenons votre maison. Votre maison, ou votre appartement, ou que sais-je, hein. Considérons la sécurité contre le vol. Est-ce que vous allez dépenser 1 million, 2, 3, 4 millions d'euros pour blinder votre maison parce que vous avez peur que quelqu'un vous vole vos affaires ? Moi, je pense que payer une fortune pour que vos affaires qui ont une valeur sentimentale inestimable mais qui n'ont pas une valeur faciale suffisante pour justifier cet investissement, ça ne marche pas. Si vous avez une collection de Porsche, évidemment, vous n'allez pas mettre ça dans un garage avec une porte qui s'ouvre sans serrure. Là, par contre, je comprends qu'on mette une alarme, qu'on mette une porte avec des barres de sécurité pour éviter qu'elle puisse être enfoncée trop facilement, ce genre de choses. Là, il y a une raison. Parce qu'il y a un risque que des gens viennent avec une intention spécifique, avec le but de prendre des voitures qui valent une fortune chacune, et du coup, qui viennent avec un outillage capable d'enlever une porte basique, capable de quoi enfoncer une porte, que sais-je, je ne sais pas, hein, je ne suis pas cambrioleur professionnel, ni amateur. Et en fait, le cœur en sécurité, c'est contre quoi on veut se protéger. En fait, c'est analyser le risque pour savoir ce qu'on est prêt à faire comme effort en termes de sécurité. Et mon problème avec la sécurité informatique aujourd'hui, c'est que l'analyse de risque, elle a été faite et tout est mis en œuvre pour répondre à cette analyse de risque. Mais elle a été faite par qui ? Et en fait, c'est là où, et c'est un vrai souci aussi au niveau du logiciel libre, je trouve, c'est que l'analyse de risque, elle a été faite par ceux qui ont le pognon. Et ceux qui ont le pognon, c'est les Google, Facebook, les Microsoft, c'est l'Amazon, c'est ceux qui ont notamment des services de cloud. Et les services de cloud, ils ont un vrai problème majeur, c'est que le cloud, peu importe la façon dont on le dit, c'est un truc, c'est délirant hein, quand on y pense. Ils ont un million de machines et ils vendent ça comme étant un milliard de machines virtuelles. Peut-être pas un milliard pour un million, mais vous avez l'idée. Et sur chacune des vraies machines, des machines physiques, hein, puisque le cloud, ça reste des machines physiques derrière quelque part, sur chaque machine physique, par différents procédés, ils vont découper en tranches la machine et attribuer les tranches à différents clients. Et pour eux, il y a deux problèmes majeurs de sécurité, c'est qu'il ne faut pas que les tranches communiquent entre elles de manière non prévue, c'est-à-dire il ne faut pas que le client A puisse voir et altérer ce que fait le client B, qui est sur la même machine physique. Et la deuxième partie majeure pour eux, c'est qu'il ne faut pas que les tranches puissent péter l'assiette qu'il y a en dessous, c'est-à-dire le serveur physique sur lequel tournent les logiciels de l'hébergeur cloud. Et donc, avec cette analyse de risque, il y a tout un ensemble de failles de sécurité, notamment les failles de sécurité au niveau des processeurs, qui sont d'une importance capitale. Mais vraiment, c'est vital pour eux, puisque une faille de sécurité au niveau du processeur, ça peut permettre au client A de déborder ou d'attaquer le client B, ou d'attaquer l'assiette. Et ça c'est inadmissible pour eux. Ça ne marche pas. Mais là où moi je commence à être un peu excédé par ce modèle, c'est qu'il y a énormément de cas où on s'en fout. Je veux dire, c'est grave les failles au niveau des processeurs, il y en a au moins une, la première qui a été annoncée par Intel, celle-là c'est une honte. C'était la Meltdown, elle était pire que toutes les autres. Celles qui sont sorties depuis, c'est des failles beaucoup plus compliquées à exploiter, beaucoup plus vicelardes, et au final... qui rentre dans une catégorie où, j'ai envie de dire, est-ce qu'on est prêt à payer ce prix pour se protéger de cette faille ? Est-ce que, si la faille est exploitable, c'est pas déjà trop tard, tout simplement ? Je vais prendre deux exemples. En ce qui me concerne professionnellement, c'est pour des serveurs qui ne font tourner qu'un seul service, c'est un serveur entier, pour un seul logiciel, parce que c'est un logiciel qui a besoin de toutes les ressources de la machine, c'est une base de données, c'est fait pour. Est-ce que j'ai besoin de protéger cette machine-là contre Red Bleed, la dernière qui a été annoncée ? Non, en fait. Cette faille-là, oui, effectivement, c'est pas terrible comme faille. Mais si je suis dans la situation où un attaquant peut exploiter cette faille sur ma machine, c'est déjà trop tard. Je peux déjà abandonner, parce que ça veut dire qu'il a déjà accès à ce qui compte sur la machine, c'est les données. Et là, on rejoint l'informatique personnelle, et là où il y a un vrai problème aujourd'hui, c'est aujourd'hui, sur nos ordinateurs, et à ma connaissance, alors j'ai pas essayé de machine Apple récemment, moins de 10 ans, hein, donc ça, vraiment ça date, je sais pas comment ça se passe sur Apple, mais que ce soit Windows ou Linux, il y a un vrai problème majeur sur les ordinateurs personnels, c'est que vous avez un ensemble de logiciels et vous avez vos données. Mais vous n'avez pas vos données par logiciel. On a toujours, dans le monde informatique personnel, on a toujours considéré que je crée le fichier avec, je crée une image avec ColorPaint ou avec GIMP. Et derrière, je peux la rouvrir avec Krita ou avec un afficheur d'image, peu importe son nom. On a toujours considéré ça comme normal. Mais ça veut dire que si un logiciel malveillant venait à tourner sur la machine, il n'a aucune barrière pour aller lire l'ensemble des données. Et malheureusement, c'est là où je suis assez emmerdé par le modèle actuel, c'est qu'il y a très peu d'efforts qui ont été faits pour cloisonner réellement à ce niveau-là et dire non, les logiciels n'ont pas accès automatiquement à l'ensemble des données de la machine, ils n'ont accès qu'aux données dont ils ont besoin et aux données pour lesquelles ils ont été autorisés. Je ne serais pas à l'aise que le navigateur web aille ouvrir, je ne sais pas, dans mes documents, mes avis d'imposition. Il a pas à y toucher, c'est personnel. Un site web ne devrait pas pouvoir y accéder non plus. D'ailleurs, les sites web sont bloqués par le navigateur, mais si un site web exploite une faille de navigateur et qu'il accède au fichier, j'ai perdu. Et récemment, il y a eu des... nos collègues de l'émission précédente ont parlé de l'attaque contre Rockstar et la fuite d'éléments de GTA 6 ou autre. Ça, moi, j'allais pas en parler de cette émission. C'est un non-événement pour nous. On s'en fout, en plus. Mais là où c'est intéressant, c'est comment ils ont été piratés. A priori, c'est une attaque sur un outil de communication et c'est du vol d'identifiants localement sur des machines. D'ailleurs, il y a une faille qui a été annoncée Microsoft sur Teams, donc l'outil de communication très utilisé en entreprise. Teams stocke en clair des identifiants pour se reconnecter son mot de passe. C'est normal qu'ils stockent ça. C'est normal. Le problème, c'est qu'avec le fonctionnement des PC, avec le fonctionnement de nos ordinateurs, il n'y a pas de cloisonnement pour interdire à toute autre application d'aller lire ces données. Et c'est là qu'on tombe sur un vrai souci. Aujourd'hui, il y a un gros trou béant, mais ce trou béant, sur l'informatique personnelle, ne concerne aucune entreprise qui ait vraiment envie de s'en préoccuper. Même Microsoft en a rien à foutre. Apple s'en est peut-être occupé indirectement. Je mets une très grosse interrogation parce que je ne sais pas jusqu'où ils sont allés sur ça, mais uniquement dans le but d'imposer aux développeurs de passer par leur App Store, même pour les applications, pour l'ordinateur personnel. Donc c'est dans un but financier uniquement, et comme il n'y a aucun intérêt financier à sécuriser les logiciels qui tournent sur nos PC, il n'y a rien qui est fait là-dessus. Et donc les failles qui sont annoncées en grande pompe, au final, on s'en fout, et les failles dont on devrait s'inquiéter, on n'en parlera jamais. Voilà, c'est... J'ai bien déprimé. Super. Donc c'était la dédicacisation et c'est la fin de ce numéro parce que de toute façon ma voix est en train de partir complètement en live. On se retrouve dans 2 semaines avec peut-être un peu plus de voix et peut-être 2 personnes dans le studio parce que c'est quand même un peu mieux pour donner la réplique. Vous avez rendez-vous dans quelques instants avec Chupa Pimento, comme d'habitude sur Radio Campus 106.6 à Radio Lumière Terrestre et campusville.com. Et on se retrouve dans 2 semaines. Ciao, bye bye.
L'écho des gnous. Votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur. L'écho des gnous.